Bonjour chers amis, bienvenue dans cette deuxième partie, dans le Libre Journal du lundi soir, où après avoir écouté un éditorial de Patrick Simon, qui va peut-être nous parler de libéralisme, sait-on jamais, nous poursuivrons une conversation avec Stéphane Barsac et Pauline de Préval autour de l'œuvre d'art. Que voit-on quand on contemple une œuvre d'art? Eh bien justement, mille choses, et Stéphane Barsac en a listé quelques-unes, et vous aussi Pauline de Préval dans votre dictionnaire amoureux des cathédrales. Mais tout de suite, Patrick Simon. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir Richard. Alors je ne vais pas vous parler du libéralisme, mais plutôt de la liberté. Alors, on entend actuellement de nombreuses critiques au sujet de la guerre lancée par Donald Trump en Iran. Ce serait un désastre, selon certains, par exemple, même Vincent Hervouette l'a dit sur Europe 1, ce serait une erreur, disent d'autres, ou une folie. On ne parle plus que de quoi ? De la montée des prix des carburants dont on se plaint. Alors que je signale au passage que le prix des carburants, quand on va chez Total, est exactement le même. 1,99, ils ont été plafonnés, ils étaient plafonnés avant, ils le sont toujours maintenant. Et on ne parle pas du problème, c'est-à-dire de la répression terrible en Iran qui continue de plus fort. Alors, il est nécessaire de briser ce silence. Je sais que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a eu des massacres épouvantables de manifestants tués à balles réelles en janvier dernier par dizaines de milliers. On le sait. Mais on croit que tout s'est arrêté après. Or, il n'en est rien. Les exécutions capitales par pendaison, parfois publiques, parfois secrètes et sans jugement, les exécutions capitales se poursuivent contre des prisonniers politiques. Lors de la première quinzaine d'avril, donc c'est tout récent, 13 manifestants courageux ont été exécutés pour avoir résisté aux gardiens de la Révolution. Malgré les tortures, ils n'ont jamais renoncé à leurs convictions. J'ai déjà donné des exemples d'exécutions capitales à la prison Gezel Ezar dans une autre émission. Et j'ai aussi donné l'exemple d'une pendaison publique d'un champion mondial olympique de lutte, un Iranien donc. Mais je me suis arrêté là. Alors, je dois ajouter, en février 2026, les autorités ont condamné 8 personnes à mort. Et Amnesty précise, au moins 22 autres personnes, dont 2 enfants, risque la peine capitale dans le cadre de procès expéditifs entachés de torture et manifestement inéquitables. Fin de citation. Je cite le bulletin d'une association iranienne de résistance, qui s'appelle Un monde nouveau et humain. Je cite donc, « Plus de 500 000 enfants travailleurs vivent en Iran. Beaucoup d'entre eux sont les enfants de parents exécutés par le régime, vous vous rendez compte ? Des enfants soldats. En raison de la précarité économique, les enfants deviennent des cibles particulièrement vulnérables au recrutement comme soldats par le régime, ce dès l'âge de 12 ans. De 12 ans. » Fin de citation. L'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Hein. L'UNICEF a alerté avoir reçu des informations faisant état de la mobilisation de forces au sein desquelles des enfants sont recrutés. Or, recruter des enfants soldats constitue un crime de guerre, un crime de guerre. Et c'est pourtant ce que fait le corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI, selon Amnesty International du 2 avril dernier. Il y a en effet des preuves audiovisuelles d'enfants soldats déployés à des postes de contrôle et armés de fusils de type AK-47. Alors, ce que je viens dire, moi, c'est que grâce à Trump, Je sais que c'est pas bien vu de défendre Donald Trump, mais moi je le fais grâce à Trump et grâce à ses menaces. Les menaces, on dit que c'est un fou, non ? Et il menace effectivement. Eh bien, c'est grâce à ça, certaines exécutions à mort prononcées par les tribunaux ont été suspendues. Comme quoi, cette guerre entreprise par les États-Unis contre l'Iran sert au moins à quelque chose, au moins à cela. Je vous en donne une autre illustration. Mariam Akbari Monfared a été libérée après 17 ans de détention. Et je lis le bulletin de l'association. Tout commence dans la nuit du 30 décembre 2009, au lendemain des soulèvements populaires qui ont ébranlé Téhéran. Mariam est arrachée à son foyer alors qu'elle endort sa plus jeune fille, Sarah, alors âgée de 4 ans. Ce qui devait être une simple convocation pour explication s'est transformé en une peine de 15 ans de prison. Alors le délit, c'était Moharebeh. Moharebeh, c'est guerre contre Dieu, prononcée lors d'un procès sommaire d'une heure sans défense adéquate. Durant ces 17 ans, le régime de Téhéran a tout tenté pour briser sa volonté à cette femme. Privation totale de permission, exil successif. Oui, elle ne pouvait jamais sortir de sa cellule. Elle a manqué les mariages de ses filles, les deuils familiaux, etc., etc. Elle a été transférée de la prison d'Evin à celle de Semam en 2021, puis récemment au centre de détention de Karchak. Elle a été systématiquement éloignée de sa famille pour accroître sa détresse psychologique. Et puis, il y a eu du harcèlement judiciaire. Et quand elle s'approchait du terme de sa peine initiale de 15 ans, juste pour délit d'opinion, de nouveaux dossiers ont été fabriqués pour prolonger son incarcération de 2 années supplémentaires. Alors, si le régime s'est montré si acharné envers cette femme, Mariam Akbari Monfared, c'est parce qu'elle est devenue la voix des disparus. Elle est en effet issue d'une famille tragiquement marquée par la répression. Ali Reza Akbari Monfared a été exécuté en 1981. Gholam Reza Akbari Monfared a été tué sous la torture en 1985. Et Abdoreza et Rogayeh Akbari Monfared, tous les deux ont été massacrés lors du carnage de l'été 88. Alors c'est ancien tout ça, et c'est pour ça qu'ils gardaient un peu cette femme en prison. Mais elle a quand même eu l'incroyable courage de déposer une plainte officielle auprès du pouvoir judiciaire iranien. Alors, tout au long de ces 6200 jours de captivité, Mariam n'a jamais cessé d'écrire. Elle a fait des lettres qui sont sorties clandestinement des prisons d'Evin ou de Semam. On a donc pu savoir ce qui lui arrivait. Et si elle a été aujourd'hui libérée après 17 ans de captivité, eh bien, c'est grâce à l'intervention américaine en Iran, puisqu'ils ont voulu montrer qu'ils pouvaient faire des gestes. Mais ceci dit, il y a bien d'autres prisonniers politiques iraniens qui croupissent dans les geôles de ce pays pour avoir simplement exercé leur liberté d'expression. Alors j'en terminerai pour souligner l'atrocité de ce régime, et je préciserai que même les infirmiers qui soignent les milliers de blessés lors des manifestations de janvier, même les infirmiers peuvent être arrêtés et emprisonnés, de sorte que les soins doivent être prodigués en secret et ne peuvent pas être prodigués à l'hôpital. Alors, quand on subit la montée des prix de l'essence, ne soyons pas égoïstes, s'il vous plaît, et pensons d'abord à tous ces prisonniers politiques iraniens qui souffrent bien plus que nous et qui attendent et qui espèrent la chute de ce régime abominable. Priez, amis auditeurs, prier pour que ce régime abominable tombe et tombe définitivement. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
Merci beaucoup Patrick Simon pour cet éloge de la liberté d'expression et de la liberté des Iraniens qui évidemment nous est cher.
Merci et au revoir.
Au revoir. Et sans transition aucune, voilà, je redis le plaisir que j'ai à recevoir Stéphane Barsac. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Pour De l'univers visible et invisible, éloge de l'art. Alors évidemment, avec tous les post-it, c'est un peu moins joli que la couverture originale, voilà, qui est beaucoup mieux, aux éditions du Passeur. Et Pauline de Préval, qui nous a gratifié il y a quelques années, il y a très peu de temps d'ailleurs, d'un dictionnaire amoureux des cathédrales, qui est une vraie joie. Si je vous réunis tous les deux, c'est parce que, Stéphane, dans ce livre, vous partez de l'art préhistorique pour arriver au plus contemporain des contemporains. Ça se termine par un extrait de votre journal en 2026. Donc vous partez des cavernes il y a moins 50 000 ans pour arriver aujourd'hui. Évidemment, vous passez à un moment donné par l'art sacré, un petit bout de roman qu'on retrouve d'ailleurs en partie chez Gucci, qui est l'un des artistes contemporains que vous nommez au passage et dont vous nous faites découvrir l'œuvre. Votre livre de l'univers visible et invisible est une espèce, dans une première partie, de méditation comme ça sur ce qui pousse les hommes préhistoriques à peindre des animaux, d'ailleurs dans des formes qui sont parfois étonnamment conceptuelles et donc peu représentatives, jusqu'à arriver, à travers tous les détours de l'histoire de l'art, à des peintres d'aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple Frison Roche, qui a peint une peinture que vous avez reproduite en couverture de votre ouvrage. On a l'impression que c'est la déesse Athéna avec une chouette qui a fait son nid sur sa tête. Mais enfin voilà, je réinterprète peut-être la chose. Pourquoi écrire sur l'art en fait ?
La réponse sera toujours la même. Pourquoi pas ? Il faut ne s'interdire absolument rien. L'art est au cœur de ce que nous avons à vivre de plus intense. C'est ce qui nous dit qui nous sommes, ce que nous pouvons avoir été, ce que nous pouvons être et ce que nous devons être dans toutes les dimensions du temps. C'est la manière la plus rapide d'accéder à la beauté. Et la beauté est une forme constitutive de la nature humaine. Sans beauté, il n'y a pas d'espèce humaine. Vous parliez tout à l'heure de l'art préhistorique, ce qui est très frappant et ce qui n'a pas manqué de frapper les spécialistes, c'est que dès l'origine de l'humanité, il faut bien considérer qu'à l'origine, les premiers êtres humains étaient assez peu différents de nous, en réalité. Il y a effectivement des objets, des artefacts, mais il y a aussi, à travers ces objets, la volonté d'exprimer plus que ces objets. Vous avez des colliers, vous avez des formes ouvragées, vous avez tout un rapport au beau, qui sans doute avait une fonction, je ne le nie pas, par exemple pour distinguer les tribus entre elles, mais pas seulement, qui avait la fonction suprême, qui était d'être l'expression de la gratuité. Donc l'expression, d'une certaine manière, d'un rapport au divin.
C'est ce que vous dites. En fait, l'art ouvre le champ du possible.
Voilà. Oui.
Et peut-être, ce dernier point répond-il à la fonction ultime de l'art, non seulement poser le débat entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre ce que je vois qui existe et ce que je vois qui n'existe pas, mais sur le sens de ce qui est proposé. Ce taureau assyrien est-il seulement un taureau ou une porte initiatrice ? Les statues d'Athènes ou d'Angkor sont-elles seulement des statues ou des éléments votifs ? Cette fresque de Giotto ou Guernica de Picasso ne sont-ils que des jeux d'illusion ? La salière de François Ier faite par Benvenuto Cellini n'est-elle qu'une salière ? Sans doute devine-t-on qu'il y a non du divertissement, mais de formules mises à notre disposition, qu'il y va non de divertissement, mais de formules mises à notre disposition pour entrer dans une vita novae à la Dante où l'on devient voyant à la Rimbaud. C'est exactement, j'ai l'impression, ce que vous avez trouvé dans les cathédrales, Pauline de Préval, c'est-à-dire non pas un ensemble de sculptures, mais au contraire des portes ouvertes sur quelque chose qui nous met en face d'impossible, cette part de divin qui est en nous-mêmes.
Oui, mais là où je rejoins Stéphane Barsac, c'est que je pense que l'art a eu, jusqu'à une date très récente, cette fonction d'être un pont entre le visible et l'invisible. Et que jusqu'à une date récente, on avait une conception symbolique du monde, où le visible, en effet, était reflet de l'invisible, et l'art était une médiation Alors, il y a eu toutes sortes de médiations. Stéphane Barsac peut remonter jusqu'à l'âge des cavernes. Moi, c'est un art aussi qui me fascine entièrement, parce que quand on voit le portrait du premier homme qui date d'il y a 60 000 ans dans une grotte en Dordogne, on a l'impression de se situer en face d'un contemporain plus que devant une œuvre de Jeff Koons, par exemple. Je me sens plus contemporaine, paradoxalement, d'un homme des cavernes que de Jeff Koons. Et là où je vous rejoins, c'est que l'art des cathédrales donc, poursuit cette tradition de l'art sacré, évidemment, en la convertissant. En la convertissant parce que pour un chrétien, bah, le Christ est l'alpha et l'oméga, celui qui donne sens à toutes les traditions antérieures et révèle ce sens à tous les hommes. Et ce qui m'a fascinée dans les cathédrales, c'est moi, je ne m'intéresse pas au passé parce qu'il est passé. Je suis comme Gustave Thibon, je monte vers ce qui est éternel, comme il disait. Et j'ai toujours trouvé dans l'art des cathédrales une présence à travers les œuvres. Quand je regarde, par exemple, les statues-colonnes effilées par la tente du portail royal de la cathédrale de Chartres, quand je regarde la Vierge un peu effarouchée de Simone Martini dans la cathédrale de Sienne, quand je vois les gisants aux yeux éblouis de la basilique Saint-Denis, les cathédrales m'ont éveillée à la spiritualité, m'ont éveillée à une présence et m'ont donné envie de la chercher. Et en tout cas, voilà, elles ont été pour moi une médiation vers cet invisible, en tout cas une première porte ouverte, et ensuite c'est un long chemin que j'ai entrepris.
C'est un long chemin et merci de nous l'avoir fait partager donc, dans ce dictionnaire amoureux des cathédrales. Mais sur ce chemin, il y a deux ou trois accidents, alors, et notamment il y a l'art contemporain. Vous citez la manière dont Annie Lebrun en parle. Depuis la collusion qui s'est faite dans les années 90 entre l'art dit contemporain et la finance, celui-ci s'est peu à peu trouvé investi de la mission de nous faire assister au spectacle de la transformation de l'art en marchandise et de la marchandise en art. Autrement dit, de la violence de l'argent travaillant à liquider la nuit de l'incalculable. Jouant la sensation contre la sensibilité, le gigantisme des œuvres présentées n'est pas un hasard. Il s'agit d'une reconfiguration de la perception au cours de laquelle la sidération qui s'enfuit favorise la disparition de tout esprit critique comme l'instauration d'un nouveau mode de servitude par insensibilité mimétique. Adieu Jeff Koons, adieu les œuvres gigantesques qu'on voyait dans les nefs du Grand Palais.
Ce qui est intéressant, en l'occurrence, c'est la personne qui signe ce texte, c'est-à-dire Annie Lebrun. Annie Lebrun était une amie proche d'André Breton, le pape du surréalisme. Donc c'est quelqu'un qui a eu la chance de vivre assez âgée, elle est décédée il y a très peu de temps, si bien qu'elle a pu voir à la fois la modernité dans ce qu'elle pouvait avoir de transgressif et la modernité dans ce qu'elle a de plus formaté par le marché, c'est-à-dire le contraire de ce que quelqu'un comme Breton voulait. Et donc c'est d'autant plus amusant qu'effectivement, c'est une parole non pas de quelqu'un de réactionnaire, mais de quelqu'un qui a été elle-même une surréaliste et qui l'est restée jusqu'au bout.
Alors elle est restée jusqu'au bout, mais avec... donc un certain conservatisme, si j'ose dire, de l'histoire de l'art. Ce qui est intéressant dans le parcours que vous nous proposez, c'est qu'on vous sent, vous, baigné depuis votre enfance dans ce milieu artistique. Voilà, vous avez commencé à dessiner. Vous n'êtes pas allé au bout, vous avez préféré prendre la plume. Merci d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous auriez donné comme dessinateur, mais comme écrivain, c'est tout à fait aimable. Voilà, c'est même nécessaire. Il y a chez vous voilà, une manière de mélanger toutes les époques, de rapprocher les gens les plus différents. Et on vous sent de plein pied avec 1890, 1920, 1950, 70, 2010, 1400 et moins 50 000. Oui. Tout ça forme une espèce de continuum.
Oui, le temps est une illusion. Alors évidemment, il y a des ruptures, il y a des choses qui se marquent, il y a des évolutions, mais sur le fond, l'homme est l'homme depuis toujours. Il est le même. On parlait de l'homme de la préhistoire, mais enfin... Nous sommes comme lui et d'une certaine manière, nous avons nos propres grottes. Et si on prend du point de vue technique, la virtuosité de celui qui a fait les grottes de la préhistoire, cette virtuosité n'est pas inférieure à celle d'un Picasso. Donc c'est vrai que l'art, en fait, est un déplacement de la sensibilité à travers les émotions. Et c'est la possibilité, en fait, d'accéder à ce que nous sommes en vérité. Donc quelqu'un qui dit le vrai du cœur... quelle que soit l'époque et notre contemporain. Et nous-mêmes, de fait, en faisant des choses, nous pouvons retrouver leurs sensations, leurs émotions, comme on peut être aussi certain que ce que nous avons à faire pourra être retrouvé, si ça a du sens, si ça a de la force, dans 100 ans, 200 ans, 300.
300. Et il y a quelque chose qui est tout à fait aimable, c'est que, bien sûr, on pourrait pleurer sur les cathédrales, on pourrait pleurer sur Poussin, à qui vous rendez un vibrant éloge, mais vous avez décidé, le 24 avril 2021, de nous dire, mais non, il y a des contemporains qui sont excellents, certains sont mes amis, mais enfin pas tous, Stanislas Bouvier, Roger de Montebello, Augustin Frison-Roche, d'autres encore, qui sont également des amis de Denis Polge à Paul Kichilov. Il y a des gens de talent à notre époque. La difficulté est que les médias ne les favorisent pas. Ils préfèrent déclarer, option proprement réactionnaire, que l'art contemporain serait nul, ce qui est faux. Il y a des nuls, mais à preuve, il y a des gens de talent. Et sinon, passent leur temps soit à louer, soit à exécrer les Jeff Koons et autres publicistes, ceux-là même qui mériteraient que le silence s'abatte sur eux. Donc, on vous sent malgré tout homme de goût, c'est-à-dire que vous avez des goûts et vous avez une esthétique et vous la défendez. Mais voilà, il n'y a pas de raison de se désespérer d'un art qui aurait sombré dans la vulgarité, le gigantisme et la finance.
Alors, évidemment, sur tous ces points, je ne peux que vous donner raison. Je le vois
comme
tout le monde.
Je vous cite en plus.
Oui, merci. Non, c'est vrai qu'il y a des choses épouvantables. Et il y a tout lieu de s'énerver, de s'agacer. Et en même temps, il faut aussi avoir le courage de voir plus loin. Il faut avoir la hardiesse de ne pas s'arrêter à ce sentiment que tout est fichu. C'est faux, évidemment que non. Rien n'est jamais fichu. Et à preuve, il s'agit pour chacun de démontrer le contraire. Et chacun à son niveau, en plus. Donc, de fait, aujourd'hui, il y a des choses qui sont parfaitement critiquables, qui d'ailleurs sont d'autant plus critiquables qu'elles ne souffrent aucune critique. C'est assez étonnant. Mais il y a des choses admirables, et d'autant plus admirables que, étonnamment, effectivement, personne ne prend la peine d'en parler dans les médias mainstream, comme on dit. Et c'est tout à fait regrettable. De fait, il y a aujourd'hui des gens de très grand talent, comme à toutes les époques. Et comme il y en avait en 1950, comme il y en avait en 1920. Sans doute le verra-t-on dans un siècle. Mais en fait, nous sommes avec des gens d'un génie aussi efficace, aussi bouleversant que celui des grands artistes du passé. J'en donne quelques-uns. C'était ça aussi l'ambition de ce livre. C'était de ne pas s'arrêter à un constat qui serait ou l'histoire de l'art ou une déploration sur un art enfui, mais de montrer qu'il y a un continuum, effectivement, dans le temps, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et que jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver des gens qui littéralement font vivre le génie et qui, en retour, nous douent de vie, nous donnent le sentiment qu'on peut avoir accès à des émotions qu'on ne pouvait même plus espérer avoir. Vous prenez l'exemple d'Augustin Frison-Roche. C'est un jeune peintre tout à fait admirable. Je suis sûr que n'importe qui voyant ses œuvres ne peut être que bouleversé et se dire « mais en fait, si ça existait, pourquoi me l'a-t-on caché ?»
Alors, et justement, Augustin Frison-Roche est de moins en moins caché. Si je ne m'abuse, une partie de ses œuvres sont installées dans des cathédrales. Il y avait une exposition Bernardin, il y a quelques mois, un an ou deux, je ne sais plus, consacrée à Frison-Roche, avec notamment un énorme tondeau, une grande peinture circulaire, avec quelques archanges encadrant une vierge, si je ne m'abuse, et qui était censé être installé dans une cathédrale pour remplacer un oculus qui avait disparu. Dans votre voyage au cœur des cathédrales, il y a quelque chose qui est émouvant, c'est que, évidemment, vous parlez des sculptures les plus anciennes, mais vous parlez aussi de ce qu'on y trouve et qui est récent. L'intérêt de ces vaisseaux de pierre, c'est qu'on a parfois 200, 300, 400, 600 ans d'histoire de la sculpture et d'histoire de l'art rassemblés en un seul lieu, entre l'orfèvrerie 18e, la chaire Renaissance, les sculptures romanes, un petit bout de gothique, ou même au contraire, évidemment, toute la cathédrale est gothique. Il y a plutôt un petit bout de roman qui traîne par là pour une raison qui nous échappe. La cathédrale doit être antique. Et c'est quelque chose qui est tout à fait admirable que lorsqu'on rentre dans ces cathédrales où le temps a peu à peu déposé la manière dont on a décidé brusquement de transformer tel cœur avec des grands anges baroques, comme à Abbeville, je crois. Et on se dit, ben non, finalement, les anges baroques voisinent parfaitement bien avec le gothique. Là aussi, il y a une espèce de continuité et de simultanéité qui est tout à fait intéressante.
En fait, vous avez très bien défini ce qu'est une cathédrale. Il ne faut pas en avoir une vision fixiste ou patrimonialiste qu'on a tendance à avoir aujourd'hui parce qu'on s'arc-boute justement contre les abus qui peuvent être faits d'art contemporain dans les cathédrales qui ne collent pas forcément avec les principes. Les cathédrales sont en réalité des organismes vivants qui accumulent des témoignages de la rencontre de toutes les générations avec celui qui était, qui est et qui sera. Donc il faut le voir dans cette optique-là. Chacun y a mis son génie, sa foi. Chaque époque y a accumulé son génie et sa foi. Et jusqu'à une date très très récente, en fait, jusqu'à la fin du 19e siècle, on considérait tout à fait normal de témoigner de son époque, mais aussi parce qu'on partageait l'esprit de l'époque qui avait précédé. Donc quand on restaurait dans l'esprit du temps. Et on trouvait normal d'y ajouter sa marque. De même, là, quand il y a eu les débats sur la restauration de Notre-Dame de Paris, que ce soit pour le mobilier ou pour les vitraux, a priori, moi, je ne suis pas contre le fait que des artistes contemporains s'y illustrent. Bien au contraire, pour moi, les cathédrales sont des organismes vivants. Simplement, il faut partager l'esprit du lieu. Et c'est toute la question. Est-ce que les artistes qui s'exposent là-bas le font pour voilà, soutenir leur cote ou pour servir le lieu dans lequel ils sont, tout simplement.
On pourrait même questionner l'archevêché. Est-ce qu'il essaye de soutenir la cause de Dieu ou est-ce qu'il essaye de montrer qu'il est à la page?
Ça, voilà. C'est autre chose, mais en tout cas, les cathédrales doivent rester vivantes. Et ce qui compte, ce pourquoi j'ai écrit justement ce dictionnaire amoureux, c'est de donner à partager, en fait, l'esprit, la vie qu'il pouvait y avoir dans l'art de chaque époque. Et je cite des œuvres qui peuvent être des œuvres paléochrétiennes, aussi bien que contemporaines, avec une dominante gothique, évidemment, parce que l'époque gothique était aussi celle à laquelle on est rentré dans la culture de l'image, dans laquelle on baigne totalement aujourd'hui. Mais c'est vraiment à l'époque gothique qu'il y a eu une volonté de communiquer par l'image et d'expliciter les mystères de la foi par l'image, pas seulement par l'image, par la lumière, par la couleur, par tous les arts, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on admire encore aujourd'hui les cathédrales, c'est qu'elles sont un art total.
Tout à fait. Dans ces cathédrales, il y a du mobilier liturgique. Voilà. Alors, ça peut être un encensoir, un calice, une patène. Il y a aussi, évidemment, des mobiliers un peu moins liturgiques, un lutrin, le siège du célébrant. Et vous faites une part intéressante à Gudji, donc orfèvre contemporain, géorgien, si je ne m'abuse, d'origine, et qui a une manière tout à fait étonnante de fondre dans une inspiration qui est à la fois contemporaine et antique différentes influences. À première vue, les œuvres de Gudji font le lien entre l'antique et le moderne, le mythique et le mystique, ou encore la fable et l'ineffable. Elles accordent le mouvement qui déplace les lignes aux courbes et aux ondes immémoriales des plus hautes traditions. Elles les révèlent, elles les fusionnent, elles les annulent au gré de leur métamorphose. C'est ça qui est fascinant chez Gudji, et vous en parlez là aussi évidemment avec talent, prêt à la liturgie comme au sacrifice, ici et là des détails, orbes, spires et zigzags, inscrits dans le métal comme sous la dictée d'un feu intérieur. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que vraiment quand on voit une œuvre de Gudji, on se dit, ok, ça pourrait être scythe, ça pourrait être mérovingien, ça pourrait être oriental, mais aussi bien c'est un truc gaulois qu'on vient de découvrir en faisant à la faveur d'une autoroute qu'on est en train de tracer du côté de la Bourgogne.
Vous avez raison, comme toujours, j'ai envie de dire.
Merci, vous aussi, vous êtes très bien.
avec ceci qui, moi, m'intéresse dans le cas de Gudji, c'est que c'est quelqu'un qui vient d'un pays qui n'existe plus, à savoir l'URSS. Donc c'est quelqu'un qui, alors, par le fait, a eu une formation très stricte, très académique, à une époque où en Occident, ça n'était déjà plus le cas, mais qui, paradoxalement, a été élevé dans un pays où il y avait un sceau de l'interdit sur tout ce qui touchait le sacré. D'une certaine manière, comme aujourd'hui dans notre Occident. Alors de manière encore plus forte, quand même, il faut bien dire, à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a su passer outre cet interdit et qui donc a réussi à quitter l'URSS. Et paradoxalement, arrivé en Occident, s'est trouvé devant des problématiques, somme toute, assez similaires. Et donc, c'est l'exemple de quelqu'un qui a su dire non. C'est-à-dire que à ce qui est décrété impossible, il y a toujours une réponse qui est l'improbable.
Alors, c'est avec lui, je crois, que en lisant votre livre, que j'ai le mieux compris ce que l'art pouvait représenter. Parce que vous nous dites, voilà, c'est la possibilité d'un ailleurs, c'est le fait qu'il y a autre chose. Voilà. Ces taureaux de Khorsabad ne sont-ils pas une porte, etc. Et là, vous nous dites, mais en fait, quand on regarde les œuvres de Gudji, c'est autre chose. Ce qu'évoque alors cet artiste du XXe siècle, non pas tant la réminiscence de telle ou telle civilisation, mais peut-être ce dont ces civilisations elles-mêmes cherchaient à rendre témoignage. La lumière d'un jour d'été, le champ plein de la grive sur l'arbre fleuri, la joie révélée d'une réconciliation avec la terre nourricière, maternelle en tous ses fruits, jusqu'à la mort. Ce que signifient ces oiseaux nacrés, ces lions à la langue d'aventurine, ces taurillons aux cornes d'ébène, le corps trempé d'argent, rien que même, ou mieux sans doute, une trace de buée sur la glace, un ciel frais et brillant de septembre, la chaleur du soleil sur un mur blanc à 11h du matin, et encore, derrière mille feuilles jaunissantes, les cris des enfants toutes les heures dans les cours d'école. C'est ça que nous dit, mais non, mais c'est vous qui l'avez écrit, c'est beau comme tout. Et on dit, mais oui, effectivement, ce monde invisible, c'est en fait notre monde, et l'art nous permet de revenir en fait à ce monde en le laissant enfin pénétrer en nous.
Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les choses, mais on ne voit rien. Et il faut arriver à s'extraire, surtout aujourd'hui, avec les flots d'images absolument incroyables auxquels nous sommes soumis. Nous sommes dans un harcèlement continu des images les plus invraisemblables et souvent les plus vulgaires, il faut dire, les plus kitsch. Il faut arriver à s'en soustraire pour arriver à retrouver cette zone où, en fait, se joue, à travers l'invisible, le rapport à l'ineffable. Et là, on peut voir à nouveau. C'est-à-dire qu'on peut voir à nouveau cet arbre, on peut voir à nouveau cet insecte, on peut voir à nouveau cette personne qui est en face de moi. Tout l'art est une manière d'amener à une méditation pour que ce qui est visible soit rendu dans sa grâce et en même temps, à travers cette grâce, on puisse voir à nouveau comme si c'était la première fois.
C'est exactement ce que vous faites, Pauline de Préval, quand vous nous parlez des yeux éblouis des gisants. On sent que c'est vous qui avez été ébloui par ces visages de pierre et qui, évidemment, vous emmenez bien ailleurs que dans juste la contemplation de la perfection du ciseau du sculpteur.
Mais oui, parce que moi, je trouve ces gisants absolument inouïs. On n'a jamais été plus loin dans l'audace, parce qu'ils anticipent même sur le monde d'après la résurrection. C'est-à-dire qu'à travers les yeux de ces gisants, qui sont donc des morts, en fait, ils sommeillent, mais ils ouvrent déjà les yeux sur le monde à venir. Comment représenter ça? Comment représenter le paradis? Ça, c'est un des problèmes que pouvaient rencontrer les plus grands peintres. Et souvent, au Moyen-Âge, bon, on se contentait de le faire de manière symbolique, justement pour ne pas trop anticiper. Et là, on voit dans le regard de ces gisants, un monde nouveau qui apparaît. Et il y a déjà quelque chose de la paix, de la joie, de la lumière de ce monde nouveau qui pénètre en nous à travers leur regard. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et toute la richesse même de la matière des gisants y contribue. Que ce soit le marbre d'une blancheur éblouissante, ou que ce soit, il en reste peu, mais il y a des gisants d'orfèvrerie qui sont éblouissants de lumière. C'est pour figurer la lumière du monde à venir. Et je trouve que c'est magnifique. On n'a jamais été plus loin, à la fois, on n'a jamais été plus loin dans la foi, dans la résurrection des corps et la vie du monde à venir, en fait.
Et dans ces cathédrales, avec ces immenses verrières, on voit bien, c'est la pierre qui est la pierre de la colline qu'on a gravie, c'est la lumière qu'on retrouvera quand on en sera sorti, mais c'est un lieu qui est à la fois gigantesque et humain. On n'est jamais écrasé en fait par la taille de la cathédrale, quand bien même elle culmine à 20, 25 ou 30 mètres au-dessus de notre tête. Et cette lumière est, transmutée par les vitraux qui permettent de poser des taches de couleur fondue sur tous les piliers. Et donc là aussi, on accède au monde qu'on connaît, mais il est transfiguré par l'appareil de la cathédrale. Et donc juste pour nous dire, en fait, cette lumière, je ne l'avais jamais vue, cet espace, je n'avais vraiment pas jamais senti, cette pierre, je n'avais jamais vraiment regardée.
Et tout est fait justement pour mener à une transfiguration. Et ça passe par la forme même de la cathédrale ou de l'église. Hein. Les églises ont rapidement pris la forme d'une croix. Dès le IVe siècle, elles commencent à prendre la forme d'une croix. À l'époque paléo-chrétienne, elles étaient recouvertes de mosaïques. Donc la lumière faisait resplendir les mosaïques à l'intérieur. On avait l'impression que la lumière émanait des murs eux-mêmes. Donc il y avait une lumière comme ça qui palpitait de toutes parts. On est dans un bain de lumière surnaturelle. Et c'est cette ambiance qu'on retrouve à l'époque gothique grâce à l'invention géniale, bon, c'est pas son invention à lui tout seul, mais de Suger, qui au lieu de mettre des mosaïques sur les murs de sa basilique, met des vitraux. Il enlève une grande partie des pierres des murs et il met les vitraux. Et là, on a à nouveau, c'est pas la lumière de l'extérieur, la lumière blanche qu'on voit à l'époque classique, c'est une lumière qui passe à travers des formes, qui miroite, qui scintille, qui raconte une histoire qu'on peut comprendre, mais qui nous mène aussi au-delà. Il y a à la fois ce qui est intelligible et ce qui est inintelligible. Et ce qui est la force de cette époque, c'est qu'il donne à comprendre, mais aussi il submerge la compréhension, il submerge les sens. Et tout est fait pour y appeler à une transfiguration. Guillaume Durand-Demande, qui était un liturgiste de l'époque, disait que les vitraux sont les écritures divines qui pénètre à travers l'Église, donc à travers le cœur des hommes. Et le corps de l'Église, c'était le corps du Christ, mais c'était aussi le corps de la Vierge qu'il avait mis au monde. Et ça devait être le corps du chrétien qui était fait à l'image du Christ. Donc il y avait un jeu de correspondance, il y avait un jeu de miroir d'une richesse incroyable qui est inépuisable et où qu'on porte le regard dans une église, que ce soit sur un vitrail, que ce soit sur un retable, que ce soit sur une statue, il y a un enseignement à trouver et il y a surtout un monde, une présence à percevoir. En fait, le mot beauté, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est important de remettre la beauté au centre de notre vie. Mais au-delà de la beauté, il y a la présence. Parce que la beauté, quand on parle de beauté aujourd'hui, on a tendance à la considérer sous un angle purement esthétique. Donc une conception qui finalement est assez tardive. Mais pour Saint Bernard, le Christ n'est jamais plus beau, par exemple, que sur la croix. Donc il faut revenir à ce genre de considération. La beauté n'est pas uniquement esthétique, elle est quelque chose qui doit transformer l'être tout entier en fait.
Et il y a même, si je ne m'abuse, chez saint Thomas, une définition de l'esthétique qui nous dit que rien n'est plus beau que ce qui est vrai, et que donc d'une certaine manière, c'est la parfaite expression de la vérité qui en est la plus belle expression en même temps. Un art quasiment conceptuel d'ailleurs avec ce genre de définition.
Pour rebondir juste sur ce que vient de dire Pauline de Préval et ce que vous venez de dire également, j'aimerais appeler comme témoin le fameux Dostoïevski avec sa phrase si mal comprise, la beauté sauvera le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, si on se limite à penser qu'il s'agit des formes de la séduction esthétique, on se trompe complètement. La beauté pour Dostoïevski, surtout au moment où il dit ça, c'est-à-dire c'est le prince Michkine qui parle dans L'Idiot, la beauté c'est le Christ. C'est le Christ qui sauvera le monde parce qu'il est beau et parce que le monde est beau lui-même.
Ah, et ce Christ est beau en tout moment de sa vie, y compris effectivement meurtri et déchiré par les épines, abattu par la flagellation, etc. La manière dont Pauline de Préval et vous-même vous parlez de l'art, on sent qu'il y a des moments d'épiphanie, il y a des moments de révélation, et vous en décrivez un qui a l'air d'être le moment, c'est le 2 avril 1989, donc ça ne nous rajeunit pas, vous étiez un peu plus jeune qu'aujourd'hui, vous étiez même très jeune, ouais. Je crois que vous avez à peine 50 ans, et donc le 2 avril 1989, donc vous êtes à Florence, c'est un voyage organisé par votre lycée, et vous montez dans un couvent, il y a l'Annonciation de Frangelico qui est au bout de l'escalier. J'ai reçu un éblouissement qui a partagé ma vie en deux. Ce pan de mur m'a révélé la vie de la vie. Soudain, tout s'est intensifié. Voilà. Et donc là, on sent là aussi que le fait de, à mon tour, j'ai reçu dans la violence et la tendresse le message de l'ange porté par le chatoiement de ses plumes multicolores. Donc c'est brusquement, voilà, c'est la lumière de. La lumière qui émane de ses plumes, le fait qu'elle soit multicolore, la vie est intense en fait, mais une fois de plus, c'est une question de regard.
Oui, alors je vais essayer de répondre en disant deux choses. D'abord, en citant l'émission que vous avez eue l'autre jour avec Mathieu Boccoté et Laurent Dandrieux. À un moment, Laurent Dandrieux a eu une formule très heureuse. Il a dit que le but, si on se bat, ce n'est pas de se battre pour se battre, c'est de se battre en raison de ce qui vaut qu'on se batte. C'est-à-dire que le but n'est pas de se battre pour une civilisation hors de toute signification, mais si on se bat et qu'on on a à cœur de préserver cette civilisation, de se battre effectivement pour quelqu'un comme Fra Angelico. Alors pourquoi? Parce que ce que permet Fra Angelico, c'est effectivement une contemplation, mais cette contemplation est tournée vers chacun de ceux qui peuvent voir ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en présentant une annonciation, il propose que cette annonciation ait lieu en dans le cœur de celui qui voit, de celle qui voit. Et donc, il propose un art de la métamorphose.
Un art de la métamorphose. Et donc, cette métamorphose, il s'agit d'en traquer, en fait. Il ne s'agit pas de traquer la métamorphose. Quand on vous lit, on se dit, il y a cette révélation qui m'est faite et il y a toutes les œuvres d'art qui, en fait, sont des possibilités que je retrouve le sens de cette illumination première, que je vois bien en quoi le réel a été métamorphosé. Et une fois plus, métamorphosé ne veut pas dire transformer réellement en quelque chose de totalement différent, juste intensifié, appesanti, densifié. Brusquement, les cris des enfants ne sont pas juste un bruit à l'arrière-fond, ça devient une espèce de vérité, le givre. J'aime beaucoup quand vous parlez de givre. Mon père m'a appris un mot qui est pruine. La prune, c'est cette espèce de poussière qu'il y a sur les prunes. Et prune, ça vient de pruna, le givre en latin. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, nous sommes dans une civilisation, on est capable de donner un nom précis à un type de poussière précis. Et ça signifiait une telle attention aux choses que je crois que ça a été ma petite épiphanie à moi pour me dire que, d'une part, que le langage est une chose admirable, d'une part, que les pères sont aussi des gens admirables, et ensuite, qu'il y avait forcément dans cette réalité quelque chose auquel on devait s'attacher et aller toujours plus avant dans cette découverte. Et vous, donc, c'est l'art qui vous permet de, si je veux dire, de revivifier en permanence ce sentiment que le réel est important.
Mais oui, vous prenez les pommes de Cézanne. Voilà, qui a vu des pommes de Cézanne ne peut plus voir les pommes de la même manière. C'est la pomme que vous achetez qui coûte voilà, très peu cher, tout à coup devient une porte d'accès vers l'invisible, comme Cézanne a su le montrer.
Pauline de Préval, dans votre voyage autour des cathédrales, donc vous rencontrez 1000 cathédrales, enfin un peu moins peut-être, et vous êtes enthousiaste. Comment fait-on après pour ne pas passer sa vie en fait à hanter cathédrale après cathédrale? Comment est-ce qu'on revient à la normale?
J'ai pas fait un livre, enfin, j'ai pas fait un voyage spécifique pour écrire un livre sur les cathédrales. Ce livre est le fruit vraiment d'une vie de déambulation. Comme tout un chacun, j'ai fait l'expérience, quand je connaissais pas une ville, de commencer par voir la cathédrale comme une présence tutélaire un petit peu. Et c'est vrai que elle s'élève encore maintenant comme des présences surnaturelles. Et le propre des cathédrales est justement de trancher avec la vie courante, et c'est ce qu'on leur demande. Je m'en tirerais en disant, c'est comme le moment de la transfiguration, les apôtres sont sur la montagne avec Jésus, ils assistent à sa transfiguration, mais à un moment donné, ils doivent en redescendre. Voilà. Et la vie, elle est faite d'aller et de retour, et de transfiguration du monde à partir de ce qu'on a pu percevoir dans la prière ou à travers l'art.
Dans l'art de Frison Roche, donc, que célèbre Stéphane Barsac à plusieurs reprises, je crois que vous avez publié un livre chez Klingsic qui lui est consacré, il y a aussi comme une accumulation, c'est-à-dire que une partie de ce qu'il représente sont des motifs empruntés à Byzance, une autre partie sont des motifs empruntés à l'art gothique, une autre, on a l'impression de voir un symboliste 19e, il y a parfois de l'art déco. Et c'est comme un collage, d'ailleurs même sa manière de faire, on a l'impression qu'il utilise des pochoirs, et il y a même un peu de dripping à la Pollock, c'est comme un feuilletage en fait. Et là, j'ai l'impression, en regardant en fait une seule toile du camarade Frison Roche, d'avoir comme une cathédrale résumée. Voilà, j'ai 800 ans d'histoire de l'art, de Giotto à Bakst, qui sont condensés. C'est le sentiment que vous avez ou pas?
Oui, quand je l'ai rencontré, il m'a dit quelque chose de très intéressant, c'est que il aimait travailler sur les passages d'un monde à l'autre, d'une époque à l'autre. Et c'est vrai que c'est de cette manière-là qui nous fait voyager et qui nous rend toutes les époques contemporaines. Il y a quelque chose d'un peu onirique et qui nous transporte dans son art et qui personnellement me charme beaucoup.
Vous en parlez avec talent, Stéphane Barsac. Par le vide qu'il découvre sous nos pas et duquel il nous préserve l'instant d'une entrevision, propre à recréer la paix, une largesse, une respiration, une réconciliation, plus rien d'illusoire, ni de trompeur sur l'essentiel. De sorte que la surprise qui nous saisit à la vue de ces toiles si pensées provoque un vertige supérieur, ce que le vocabulaire des mystiques suggère à merveille par l'expression « les abîmes d'en haut ». Aucun peintre en notre temps n'est si proche du rêve, tout en demeurant si apparenté à la réalité. Ces empattements de blanc doré dans les lumières, ces frottis très liquides dans les ombres, ces glacés diaphanes dans le clair-obscur, donnent une troisième dimension à tout ce qu'il peint, en le drapant de mystère et d'un éblouissant soleil intérieur qui éclaire les brumes de sa palette. Vous êtes... souvent généreux dans vos appréciations, et on voit bien que Stanislas Bouvier, Montebello et d'autres font partie des gens qui vous procurent le type d'émotion que vous cherchez, parce qu'il y a aussi ce type d'intellection de leur part. Mais avec Frison Roche, on vous sent encore plus admiratif.
Oh, je suis admiratif pour tous ces très grands artistes qui sont nos contemporains. Dans le cas d'Augustin Frison Roche, il y a quelque chose qui est très touchant et qui est très personnel, c'est que c'est un jeune homme, il est bien plus jeune que moi, et il s'est adressé à moi pour sa première monographie, si bien que je me sens un devoir de responsabilité vis-à-vis de lui. Voilà, je suis sûr que c'est quelqu'un qui sera immense, et il l'est déjà, et de plus en plus.
Ce mot « entrevision » que j'ai cité là, il apparaît au moins une autre fois dans votre livre. Est-ce que vous pourriez en donner une définition ?
Oui, absolument. C'est un mot inventé par Stéphane Mallarmé, figurez-vous. Un poète belge que j'aime beaucoup, qui s'appelait Charles Van Lerberg, était allé voir le maître de la rue de Rome. Et Mallarmé avait trouvé comme titre pour son recueil de poésie ce mot, entrevision. Donc l'entrevision, c'est le moment où on ouvre l'œil et où on voit ce qu'on ne voyait pas avant. C'est le moment où effectivement on a accès à ce monde invisible, où tout est curieusement beaucoup plus en majesté que dans le monde ordinaire.
Alors, en majesté et en même temps à portée de main, ou surtout à portée de visage. Là aussi, dans ce livre, de l'univers visible à invisible, éloge de l'art, on sent qu'il y a un manuel d'esthétique que vous proposez en fait à tous ceux qui auront envie de lire. Il s'agit d'apprendre à regarder, et vous nous dites de cette habitude, donc d'avoir dessiné puis peint dès que vous étiez petit, de cette habitude, même si je n'ai pas accompli l'œuvre que j'avais à cœur, j'ai gardé une certitude acquise quand j'essayais de copier les œuvres. L'œuvre d'art, si elle doit être opérative, se doit d'être placée sous la lumière du face-à-face. Voilà. Donc, c'est pas un combat, c'est un dialogue, et quelque chose d'un peu exigeant aussi. Aussi belle soit-elle, une reproduction restera toujours en deçà. La sculpture est défigurée par la photo, qu'elle ne saisisse que de deux dimensions ou qu'elle grossisse un détail à l'excès. Voilà. Donc, il y a l'exigence, en fait, d'être sur le terrain, comme dirait un ethnologue.
Mais ça, c'est très important, parce que c'est là qu'on s'aperçoit que nous sommes mystifiés en permanence. Je vais donner simplement un exemple qui m'a beaucoup frappé. Un jour, j'étais à Rome et je cherchais l'église où se trouve l'extase de Sainte Thérèse d'Avila par le Bernin, qui est bien connue parce qu'elle elle est figurée en couverture du livre de Georges Bataille, L'érotisme. Très souvent, on prend le visage de la sainte en gros plan, si bien que ce visage, tout à coup, suggère tout à fait autre chose. Et en voyant l'œuvre sur place, je me suis aperçu qu'elle disait tout à fait le contraire.
Oui, on a l'impression qu'elle meurt, en fait.
Elle est sur un nuage. En fait, on voit le nuage, on ne la voit pas, elle. Ça, c'est à la limite le dialogue entre le Bernin et Dieu. Mais le spectateur est presque de trop. Donc, la photo est trompeuse. Et ce que montre l'œuvre, c'est tout à fait autre chose. C'est une élévation. C'est quelque chose qui est infiniment spirituel. Donc, c'est vrai que là, il faut avoir eu cette expérience. Alors, quelques mètres plus bas, il y a une autre église, toujours à Rome, où on voit le Moïse de Michel-Ange. Alors, le Moïse de Michel-Ange, on imagine quelque chose qui est titanesque, mais pas du tout. Quand on le voit, il est tout petit. Il est justement charmant par ses proportions. Il y a des proportions qui sont parfaites, mais qui ne sont pas dans le gigantisme, qui sont dans la grandeur.
On va marquer une petite pause, le temps d'expliquer que voilà, si vous avez envie d'être sur Radio Courtoisie pour écouter un jour Mathieu Bock-Côté et 8 jours plus tard Stéphane Barsac, eh bien, c'est assez simple. D'abord, il suffit de nous écouter, ça devient de plus en plus simple. On va même lancer des podcasts sous peu. Voilà, vous pourrez nous écouter sur Spotify et Deezer. Voilà, la modernité la plus outrageante fait irruption dans l'univers de Radio Courtoisie. Mais surtout, il faut nous donner un peu de sous parce que vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine, 1,5 million précis, différents, par tous les canaux possibles et imaginables. Vous serez un peu plus bientôt. Voilà. Si vous pouviez être un peu plus à donner, ce serait sympa. Alors n'hésitez pas, soutenir.rc.fr ou envoyez vos chèques à 61 boulevard Murat dans le 16e et ce sera très bien. Voilà. Mais pardonnez-moi d'avoir été un peu mercantile, mais là aussi, en lisant ce livre et même en examinant les chantiers des cathédrales, on sait que rien de grand ne s'est bâti sans que les riches ne donnent. Et d'ailleurs, c'est la meilleure des paraboles de l'Évangile, celle du mauvais intendant. Achetez-vous des amis avec le mauvais argent, donc, que j'ai toujours beaucoup aimé pour ma part.
Bah, c'est sûr que les clercs ont su jouer sur... En fait, on promu la conversion des biens matériels en biens spirituels. Alors, ils ont bénéficié du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres produits d'investissement à l'époque, ce qui fait que les bourgeois pouvaient être attentifs à ce genre de discours. Mais vous parliez des riches, il y a aussi les pauvres qui donnaient. Tout le monde donnait. Et les grands chantiers...
Tout le monde donnait.
Tout le monde donnait. Exactement. Même la moindre petite pièce, des sacs de farine pour nourrir les ouvriers, des tonneaux de vin... pour les abreuver, tout était bon pour financer ces chantiers. Mais sans blague, ce qui est fascinant dans les chantiers des cathédrales gothiques, c'est que ils ont impliqué toutes les composantes d'une société pendant près de 4 siècles, en fait. tout le monde y a participé et toutes les composantes de la société. Contrairement à ce qu'on croit, les rois y ont peu contribué. Les premiers contributeurs ont été les évêques et les chanoines qui étaient qui s'occupaient des chantiers. Et ensuite, les cathédrales sont fruits en fait de la seigneurie d'église et des moissons. Donc c'est les surplus agricoles qui, pour l'essentiel, se sont changés en pierre dans la cathédrale de Chartres, dans la cathédrale de Bourges, etc. C'est le blé, le vin qui tout à coup se sont changés en offrande éternelle à travers les cathédrales. Et ces chantiers ont été rendus possibles par une période de croissance économique. Alors les rois ont peu donné, mais en tout cas ils ont favorisé un climat de croissance certain. Ils ont fait des concessions de droits et eux-mêmes ont promu ce style, donc ils ont un rôle déterminant dans cet essor-là. On observe d'ailleurs que c'est dans le domaine capétien que le style gothique est apparu. Et c'est pas pour rien, parce que c'est là que s'est faite l'alliance des évêques et des rois, une alliance politique des évêques et des rois, une entente à nul autre pareille. À l'époque, il y avait la querelle des investitures en Allemagne, où on assassinait Thomas Becket en Angleterre. Il y a un modus vivendi qui s'est trouvé en France et que reflète l'art gothique. Voilà, que vous dire d'autre sur l'économie des cathédrales.
C'est déjà très bien. Il y a quelque chose qui est fascinant, c'est la manière dont c'est un bien public, c'est un bien commun. Je veux dire, on voit bien, chacun peut admirer les sculptures extérieures, chacun peut rentrer et admirer les vitraux, chacun peut aussi, lors des ostensions, admirer les châsses qui contiennent les reliques. D'ailleurs, à l'époque, ceux qui possèdent des tableaux, des statues, les prêtent lors des processions. Et donc, tel tableau qui aujourd'hui est jalousement gardé par tel milliardaire dans un coffre-fort situé sur un yacht, voilà. Et donc, on est absolument certain que personne n'ira le contempler. Là, au contraire, il était quasiment normal, voire c'était un devoir, de prêter son tableau de la Vierge pour qu'il soit promené en procession. Cette fonction publique de l'art, cette fonction populaire, en fait, cette espèce de participation de la cité à la vie de l'œuvre, indépendamment de son propriétaire, ça fait vraiment partie des choses qui ont été perdu en revanche.
Ah, complètement. Oui, puisqu'on est passé d'un art majoritairement sacré à une sacralisation de l'art. C'est exactement le contraire. Donc autrefois, effectivement, quand une cathédrale était créée, l'idée n'était pas de faire simplement quelque chose qui soit beau. C'était quelque chose qui aussi avait une utilité. C'était utile et inutile, puisque c'était le luxe pour Dieu. Et on est passé du luxe pour Dieu au luxe pour ceux qui en ont les moyens, à l'exclusion de tous les autres.
Alors, parmi les choses moins luxueuses que celles que vous proposez, il y a, je cite la table des matières, Nicolas Poussin, Henri Cartier-Bresson, donc Stanislas Bouvier, peintre notoirement méconnu, comme dirait Alexandre Vialat, mais Alechensky, Gottlieb.
Oui.
Et brusquement, il y a Gottlieb, on dit tiens, c'est... Alors là aussi, non seulement vous en parlez dans votre introduction, mais vous lui consacrez donc un petit texte qui n'est pas si petit que ça, voilà, plus d'une page. Gottlieb était un maître du dessin, un virtuose du noir et blanc, un prodige des lettrages. Avec ses moyens, il a su transgresser toutes les limites. Voilà, et vous parlez de pervers pépère et des schtroumpfs. Voilà, et donc, on se dit, mais voilà.
C'est vrai, je sais plus.
Cet homme est capable de tout regarder, et pas juste Adam et Nain, une jeune élipe. Et on a là un éloge de Gottlieb qui... Est-ce que vous vous êtes étonné vous-même en l'écrivant? Parce qu'il
n'y a pas
d'autres dessinateurs de bande dessinée. Hein.
Lui était vraiment très fort.
J'ai bien lu.
Ouais, lui était vraiment très fort. J'ai eu la chance de le connaître, en fait. Et je l'avais rencontré longuement. Il m'avait beaucoup touché. C'était quelqu'un qui était très dépressif. Et quand on lit ses bandes dessinées, évidemment, on ne peut qu'exploser de rire quasiment à toutes les pages. Lui était très sombre. Et ça m'avait beaucoup touché parce que... j'ai senti que, en fait, cette drôlerie qui manifestait venait de beaucoup plus loin. Et il m'avait spécialement attendri.
C'est vrai, il a eu une enfance évidemment compliquée, puisque c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a compris qu'on l'avait envoyé en vacances à la campagne, surtout pour éviter qu'il ne subisse un sort terrible. Et au fur et à mesure qu'il a réussi à s'affranchir en fait de son histoire personnelle, à conquérir ce talent graphique, il est allé de plus en plus vers ce que vous appelez une au-delà des limites, mais au point que Goscinny, son maître, en a été chagrin, parce qu'il trouvait que Pervers Pépère, c'était quand même dégoûtant, et que une partie des dingos dossiers était très drôle, une partie des rubriques à bras commence à basculer dans quelque chose de surréaliste, dirait-on aujourd'hui, en ne faisant pas très attention à ce que les mots veulent dire. Et après, Gottlieb, en fait, va au bout de ce qu'il est possible de faire, ou même de ce qu'il était impossible de faire, étant donné ce que la censure lui a mis. C'est une voie qui est sèche. C'est-à-dire, il s'arrête de dessiner, il n'est plus capable de dessiner quoi que ce soit, et il va se contenter de diriger Fluide Glacial avec d'autres qui prennent le relais et qui sont encore plus transgressifs que lui. C'est quand même un peu étonnant ce sort de Gottlieb, parce que tous les artistes dont vous nous parlez, on parlera par exemple du dernier Rembrandt, et ils sont productifs, ils portent du fruit. Et là, Gottlieb, au contraire, choisit une voie qui l'arrête, en fait.
Oui, parce que sans doute il était allé trop loin dans l'expression de ce que la bande dessinée pouvait permettre. Et puis aussi parce qu'il a été rattrapé par sans doute cette dépression qu'il a réellement mis par terre, et dont je suis témoin, puisque je l'ai vu dans des états dépressifs. Et pour autant, quand je l'ai vu, de quoi avons-nous parlé ? On a parlé de Marcel Aimé. Voilà, pour lui, c'était les meilleurs souvenirs. C'était sa jeunesse à Montmartre.
Pauline de Préval, dans les églises contemporaines, on retrouve parfois dans les églises aujourd'hui, il y a des œuvres contemporaines qui peuvent être absolument surprenantes. Que pensez-vous, par exemple, du reliquaire de la Sainte Couronne à Notre-Dame en ce moment ?
Il m'a laissé sans voix.
Très bien, par charité, nous n'en dirons pas plus. Voilà. Parlons justement de Rembrandt, alors, à la place. Donc il y a quelques images dans ce livre, et notamment, voilà, Siméon au Temple, 1669, la dernière œuvre de Rembrandt, où on voit donc le vieillard Siméon, quasi aveugle, avec une barbe qui est presque une tache de lumière flottante, et qui est en train de prendre connaissance du nouveau-né, et il dit... ça y est, j'ai enfin ce que j'ai attendu toute ma vie est devant moi. Et donc il est pleinement satisfait de cette fin de vie, parce que le Seigneur qu'il avait attendu, le Sauveur qu'il avait attendu, et là il en profite pour dire à la Vierge que son fils fera des choses merveilleuses, et qu'elle aura le cœur transpercé d'un glaive. Je regardais il y a peu de temps la Vierge au buisson de rose de Martin Schongauer. La Vierge est toute triste en tenant l'enfant Jésus au lieu d'être joyeuse. On sent que les paroles de Siméon sont encore en train de résonner dans sa tête. Ce tableau de Rembrandt donc vous paraît admirable, non seulement parce que c'est le dernier, et on a évidemment l'impression que la dernière phrase d'un génie, le dernier tableau d'un grand peintre nous disent quelque chose, mais c'est aussi parce que lui aussi s'est affranchi d'un certain nombre de règles de représentation. Là, vous citez un autre auteur qui en parle comme presque d'un exercice lumineux, comme si le sujet disparaissait dans la lumière qui baigne le tableau.
Oui, il y a toutes ces dimensions, c'est ça qui est très émouvant. Et en même temps, on voit un vieil homme avec un nouveau-né. Donc on voit le passage d'un monde à un autre, un relais qui se joue dans la confiance, avec effectivement le poids des ans qui n'est pas masqué et l'espérance que porte le nouveau-né. Donc c'est bouleversant. Et ce nouveau-né, on peut penser qu'effectivement, quand Rembrandt peint ce tableau, qui est le dernier qu'il a peint, il le fait avec à l'idée sa propre mort et ses retrouvailles avec ce nouveau-né devenu le Christ.
Un des auditeurs de Radio Courtoisie nous ont écrit quelques mots, les uns pour critiquer Picasso et Guernica. Je remercie cet auditeur. Voilà, il faut toujours rappeler que Picasso était communiste et que une partie de ce qu'il fait n'était pas admirable. Je sais que vous aimez beaucoup. Je sais que vous aimez Guernica, mais
non, pas du tout. En plus, ce que je préfère. Et d'ailleurs, mon sur Picasso est critique. Justement, j'ai essayé de casser un petit peu les lieux communs autour de Picasso. Que l'artiste ait été virtuosissime, c'est évident. Qu'il ait mis cette virtuosité au service de choses douteuses Et là, c'est vrai aussi. Avec ce problème chez Picasso, c'est qu'on arrive à une limite. C'est à quelqu'un qui peut tout faire, mais qui, d'une certaine manière, est empêché par sa trop grande maestria. Si bien que chez lui, vous avez des périodes, mais pour ainsi dire, il n'y a pas de chef-d'œuvre. Ou alors, si le chef-d'œuvre, c'est Guernica, peut-être que Guernica n'est pas au même niveau que ce tableau de Rembrandt ou telle petite miniature de tel imagier médiéval.
C'est le moins qu'on puisse dire. Le Guerchin a peint l'extase de Saint-François et c'est un ange qui joue du violon devant le saint. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tableau. Il s'en souvient. Et à Reims, il y a dans une très ancienne église des vitraux très modernes de Vieira da Silva. C'est très beau, ces vitraux sont tout à fait en osmose avec les très vieilles pierres de cette église. Et le fait qu'on soit capable, alors pas forcément dans les cathédrales, puisque effectivement au 19e, voilà, les choses s'arrêtent. Ce n'est plus comme en Italie ou quand on va en Angleterre. Dans les cathédrales, il y a encore des, par exemple, des monuments funéraires donc, de 1920-1950. Donc on a l'impression que ça continue à vivre. Ces sutures, on en parlait un peu tout à l'heure, effectivement, pourvu que ce soit bien fait, on est acquis. En fait, on n'a pas l'impression qu'on a abîmé la cathédrale avec Vieira da Silva.
Non, pas du tout. Et
là, en l'occurrence, c'est une église et pas une cathédrale.
Oui, non, pas du tout. Il suffit de respecter en fait l'esprit du lieu. Et quand il s'agit de vitrail, le plus difficile, c'est de respecter l'ambiance lumineuse d'origine, en fait. Donc, à Reims, même dans la cathédrale, on aime ou on n'aime pas tel vitrail en particulier, mais l'ambiance lumineuse a été respectée. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait des vitraux contemporains. Je cite même certains artistes contemporains dont j'aimerais voir certains vitraux un jour dans une cathédrale. Pour moi, c'est toujours la question de l'esprit dans lequel on travaille. Voilà.
Quand vous avez écrit « De l'univers visible à l'invisible », éloge de l'art, on va remonter un peu la couverture, vous avez décidé... comme une partie d'ailleurs de vos autres ouvrages, de vous inspirer à la fois du journal que vous tenez, des prises de position publiques que vous pouvez avoir des conférences que vous prononcez. Il y a un côté miscellané, c'est-à-dire c'est tout ce que vous avez pu penser qui à un moment donné vous paraît être mérité en fait la collection, la récollection.
Oui, aussi parce que à travers ce que la vie nous offre dans sa fragmentation, il y a toujours l'idée qu'on essaie de défendre la même chose. Donc, d'une certaine manière, ce sont aussi des variations. C'est une manière, comme certains peintres, de montrer le même tableau à travers différents aspects. Donc, moi, mon idée, elle est simple. C'est que l'art est ce qui nous recentre, c'est ce qui nous réconcilie, c'est ce qui nous offre, je disais tout à l'heure, une vie nouvelle. Et donc, c'est à la portée de n'importe qui. Qui qu'on soit, d'où
n'importe
qu'on
qui peut se recentrer.
N'importe qui peut se recentrer. Nous sommes tous aujourd'hui dans un dérèglement au sens propre. Nous sommes sous pression, nous sommes harcelés. On a le sentiment qu'on n'a plus barre sur rien, que d'une certaine manière tout est frappé d'inanité ou d'absurdité. Or tout ça est faux. Non pas qu'effectivement, à certains niveaux, ce ne soit pas vrai, mais à un autre niveau, ça cesse de l'être, dès lors qu'effectivement, on peut se remettre face à soi. Et ce que nous dit l'art, c'est cette faculté qu'ont eu les humains, siècle après siècle, génération après génération, pour ressaisir ce qui fait que la vie vaut d'être vécue. Elle vaut d'être vécue aujourd'hui. Aujourd'hui, pour effectivement tendre la main à demain, aux jeunes générations, aux enfants, tout simplement, à nos enfants. Et donc, effectivement, l'art est une manière d'introduire un voltage dans la vie, accessible à n'importe qui peut lui donner une joie.
Alors, dans cette joie que donne l'art, il y a une espèce de gratuité. On en parlait tout à l'heure avec la manière dont les vitraux ruissellent de couleurs, dont les châsses étincellent de lumière. Et évidemment, arrive l'homme moderne qui dit « mais tout cet argent que je mets sur cette châsse, c'est autant d'or que je n'ai pas distribué aux pauvres ». Et là, on sent que ça vous énerve.
Ah oui, parce que ça sont les paroles exactement de Judas dans l'Évangile. Donc, les gens feraient bien de faire attention à ce qu'ils disent.
Voilà, parce qu'effectivement, oui. Judas, au moment où Marie-Madeleine casse un flacon de parfum de prix pour inonder les pieds du Seigneur. Il dit, mais c'est idiot, on aurait pu en tirer de l'argent. Et donc, c'est pas du tout parce qu'ils veulent donner aux pauvres, c'est parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Mmh. Et en fait, on comprend qu'il fait partie du gang des frères Raptou. Et en fait, il voulait juste prélever sa part injuste sur cet argent.
Oui, il faut se méfier effectivement de ces discours. On peut donner aux pauvres, mais enfin, tout le monde est appelé et l'art permet à tout le monde, voilà, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, de se recentrer, comme je disais, d'avoir une porte d'accès à un monde qui lui dise qu'il peut être vivant, qu'il a une dignité à vivre.
Et même cet or, cet argent, ces pierres précieuses qui sont mises sur des ciboires, sur des ostensoires, le fait qu'elles soient retirées du circuit marchand, d'une certaine manière, c'est au contraire, c'est beaucoup mieux que si elles participaient à la course du monde.
Ah oui, bien sûr, oui. Ça, je peux vous donner raison.
Mais j'aimerais si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit Stéphane Barsac, parce que l'âge des cathédrales, c'est l'âge du luxe pour Dieu qui a été promu par Suger. Et si depuis toujours les objets liturgiques sont faits de matières précieuses et si possible ouvragés avec art, c'est pas seulement pour le faste des évêques et des chanoines, c'est pour magnifier la présence que ces objets célèbrent ou la présence dont elles sont le signe, vers qui ils font signe. Et la lumière dont l'or resplendit, mais c'est la lumière divine aussi, et une fois de plus, la lumière de l'or, de l'argent ou des métaux un peu moins précieux quand on n'en a pas les moyens, la couleur des pierreries, tout ça est fait pour refléter en fait la gloire du monde divin et sa présence au cœur même du monde sensible. Donc c'est quelque chose de très important qui a trait au mystère de l'incarnation et à la fois en un au-delà en fait qui habite déjà ici-bas.
Et donc là, d'ailleurs, ce qui est admirable, c'est que on ne sent pas au Moyen-Âge une espèce de haine de la richesse étalée. Au contraire,
elle
appartient à tout le monde.
Tout le monde est ravi, parce que tout le monde est ravi, c'est la fierté de la ville d'avoir une cathédrale. Dès le XIIIe siècle, elles n'ont plus de fonction paroissiale. Et pourtant, chacun y va pour les grandes fêtes, pour entendre des sermons, fait la fierté de sa ville, il fait visiter sa cathédrale aux personnes de passage. On les met parfois sur les sceaux des municipalités. Ils font la fierté de tous les habitants. On parle aujourd'hui de la théorie du ruissellement. Bah, à l'époque, c'était la théorie de la participation de tous, en fait, à la lumière divine, telle qu'elle était promue par Denis l'Aréopagite et telle que les cathédrales pouvaient en donner l'image, en fait. Donc, tout le monde avait conscience de participer à ces trésors.
Donc vous avez reparlé de lumière et de ruissellement. Évidemment, ça nous amène à ce théâtre baroque du Bernin avec ses églises où les effets de lumière sont extrêmement travaillés. Il y a notamment ces deux petites chapelles qui sont juste à côté de je ne sais quel bâtiment officiel, genre le palais de la présidence ou je ne sais pas quoi. Il y en a une du Bernin et une autre du Borromini côte à côte. Et c'est des églises minuscules, mais qui sont toutes les deux, l'un un peu plus sévère avec Borromini et l'autre un peu plus aimable avec le Bernin. Avec ce que vous dites du baroque, ça fait partie des choses qui permettent de mieux comprendre rétrospectivement ce que j'ai vu. On a remarqué à propos de l'architecture, mais la transposition aux autres arts plastiques est pertinente, que le baroque a délaissé la pureté minérale de la Renaissance pour une manière plus charnelle. À la ligne droite, à cette forme cristalline qui rassure l'esprit, il a préféré le trouble de l'organique, le gonflement des matières, ce frémissement qui ressemble à la vie. Tout y est affaire d'impulsion, on vole, on tombe, on presse, on s'arrache. Donc on s'élève, comme Sainte Thérèse tout à l'heure. Mais ces tourments, au sens propre, risquent de rester tout extérieurs, de n'être en rien l'expression d'une incarnation. Il y a un danger baroque dans cette espèce de mouvement perpétuel.
Le mouvement baroque, évidemment, est indissociable de la contre-réforme. C'est un des grands moments de l'histoire de l'humanité, un des grands moments de l'histoire de l'esprit, tout simplement. Il y a différentes formes de baroque. Alors, évidemment, selon les pays, selon les arts, la musique baroque nous parle aujourd'hui parfaitement au cœur, et j'ai envie de dire du cœur des compositeurs au nôtre, presque par-delà les siècles. L'architecture est quelque chose qui est plus ou moins accepté, décrié, la sculpture aussi. C'est vrai qu'il y a le danger du jeu avec l'illusion, il y a le danger de la théâtralisation, de tout rendre digne d'une scène d'opéra. Alors j'ai envie de dire, d'une certaine manière, c'est magnifique aussi, mais le baroque est quelque chose qui peut faire nos délices et on peut passer à autre chose après.
Mais en même temps, voilà, il y a cette exaltation lumineuse. C'est vrai, beaucoup de gens disent ah, je ne prie jamais si bien que dans une chapelle romane. On a l'impression que plus la voûte est tassée, plus l'entrée est étroite, plus le pilier est massif, plus on serait proche de Dieu, comme si le fait d'être sous 30 mètres de voûte gothique, bien éclairée par une pierre blonde, nous éloignait du Seigneur.
Oui, il y a...
Sans parler des splendeurs baroques.
Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a un culte du paupérisme, de manière générale. Qui confond un petit peu tous les ordres, parce que les églises romanes, effectivement, ont une forme de dépouillement, mais enfin, elles sont aussi tout à fait exubérantes dans l'expression de la foi, c'est-à-dire qu'elles nous mènent directement vers ce qu'il y a de plus haut. Donc, moi, je ne suis pas pour opposer les différentes époques. Chacune présente des variations, et c'est notre chance à nous d'avoir accès à tout à la fois. Voilà, à 8h du matin, je peux me sentir d'humeur entre guillemets romane, à midi d'humeur baroque, et puis le soir, trouver encore autre chose. Et j'ai envie de dire, c'est une force que nous avons de pouvoir justement tout additionner, d'avoir accès à tout, et d'en faire une très grande richesse.
Alors, dans votre esthétique du face-à-face, il y a bien sûr le fait que si j'ai envie de revoir la Thérèse du Bernin, ben voilà, je n'ai qu'à taper Sainte Thérèse Bernin et crac, ça y est, j'ai 152 photos et vraisemblablement 12 articles particulièrement impressionnants sur ce qu'il faut en penser. Mais on sent chez vous, justement, et c'est la troisième partie de votre livre, la volonté, au contraire, de nous dire, eh bien voilà, il y a Pierre-Édouard, il y a Setsuko Klosowska d'Erola, il y a tous ceux à qui vous consacrez de courtes notices, pour le dire de cette manière-là. Il y a une volonté, en fait, d'être en prise directe avec ce que l'art aujourd'hui, à Paris, mais pas qu'à Paris, vous offre. Donc, c'est une assez, c'est un devoir que vous faites à vous-même. C'est-à-dire, l'idée de cette vie, en fait, elle ne peut pas être cristallisée juste dans telle église, juste dans telle œuvre. J'ai un ami qui me disait, voilà, j'ai vu tel tableau et ça me suffit, je l'ai maintenant perpétuellement devant les yeux. On a l'impression qu'il ne regarderait plus jamais rien d'autre que cette image intérieure qu'il avait.
Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Si cette image le comble, je peux tout à fait le comprendre. Peut-être que cette image le renvoie à l'unique nécessaire. Et à ce titre-là, il n'y a rien à redire. Moi, mon idée était toute simple. En fait, c'était de reprendre une tradition bien ancienne. C'est la tradition de Diderot avec les salons, de Baudelaire avec ses amis peintres, d'Apollinaire avec ses amis peintres. C'est-à-dire le fait que tout à coup, un écrivain s'empare d'un art qui n'est pas le sien, rend hommage à des artistes qui sont différents et qui en même temps lui disent de manière précise ce que peut-être ses confrères ne lui disent pas aussi bien. Il est vrai qu'aujourd'hui, la littérature, moi je suis d'abord et avant tout écrivain, offre une palette très grande, mais ce que m'offrent ces peintres est proprement unique et voilà, sans doute fallait-il aussi des mots pour pouvoir le dire. Et en même temps, avec cette idée qu'ils sont vivants, donc voilà, ce ne sont pas simplement des objets de musée, ce sont des gens qu'on peut croiser dans la rue, et donc à cet égard, ce sont des gens qui nous donnent confiance.
Alors, Pauline de Préval, j'ai demandé qu'on affiche une image qui vient d'Atam Racho, donc dessinateur arménien, artiste arménien. C'est une exposition qui va avoir lieu à la cathédrale de Beauvais du 7 mai au 30 juin 2026. Et Atam Racho donc, est un artiste contemporain qui a commencé dans le dessin animé et qui, d'une part, donc, tire du côté arménien de sa foi un répertoire d'images et de couleurs et qui, par ailleurs, il habite en France et donc est capable de peindre les collines du Bourbonnais d'une manière admirable. Que pensez-vous de cette bête de l'Apocalypse, qui est une espèce de dragon oriental qui dégueule un fleuve rempli de poissons, cependant que une myriade de petits anges dans le ciel sont en train de se battre contre un ou deux diablotins, et la Vierge, donc couronnée d'étoiles, et le croissant sous ses pieds est en train de dompter cette bête aux sept têtes. Et...
Moi, elle m'évoque un peu je ne sais pas si vous connaissez le Beatus de Saint-Sévère, par exemple.
Si.
Avec des...
Donc, magnifique manuscrit médiéval.
Voilà. Et donc, il a la même naïveté dans l'expression, le symbolisme aussi, la puissance symbolique. Très, très peu de couleurs. Ça a aussi un effet très, très fort. Donc, je suis plutôt ouverte, moi, à ce genre d'œuvres qui nous permettent de dépasser les pures apparences, en fait. Vous parliez tout à l'heure de l'art baroque. Il y a peut-être une lassitude d'images qui sont trop démonstratives, trop didactiques, qui veulent trop nous émouvoir. On a peut-être trop tiré sur ces cordes-là et on a peut-être plus besoin de revenir à quelque chose de symbolique qui nous renvoie à une intériorité, qui demande un effort et qui nous dépouille en fait de toutes les images superflues qu'on peut voir autour de nous. Voilà, je ressens ça et c'est peut-être aussi ce qui explique la mode dominante actuellement et dont a pu souffrir la cathédrale d'Angers récemment, qui est le minimalisme en fait, le minimalisme qui vient des États-Unis et dont on dit bah, justement qu'il ressemble à l'art roman, à la pureté de l'art roman. C'est pas forcément ce que je préfère, mais je peux l'expliquer par ce besoin de se purifier par rapport à un trop plein d'images qui n'ont pas de sens, en fait. La quête de, on a à nouveau une quête de sens. Et ce que j'apprécie dans des œuvres comme celles que vous avez montrées, c'est qu'elles font appel à des traditions, justement, qui ont conservé une façon de se projeter dans le monde qui est totalement autre et qui peut nous surprendre, qui peut nous éveiller de façon peut-être plus forte, moins immédiate, mais plus forte.
Donc, Atam Rachaud, exposition Apocalypse du 7 mai au 30 juin à la cathédrale de Beauvais. Les cathédrales qui, si je ne m'abuse, étaient elles-mêmes rutilantes de peinture des, du parvis jusqu'à la pointe de la flèche ou presque.
Oui, ça faisait horreur à Huysmans qui comparait les peintures des cathédrales à des tatouages ou à des bariolements de cannibales en démence. Mais c'est vrai qu'elles étaient peintes et elles étaient... peintes non seulement à l'intérieur comme à l'époque romane et aux époques antérieures, mais à l'extérieur. La nouveauté même de l'époque gothique, c'est que la peinture se répand sur les portails. Une fois de plus, c'est la couleur était considérée comme une manière de faire resplendir la lumière et c'était aussi une manière de hiérarchiser le décor. Il y avait des parties qui étaient dorées, par exemple le Christ, la Vierge, certains saints étaient dorés, d'autres parties étaient plutôt colorées, mais ça permettait dans le foisonnement sculptural aussi de hiérarchiser, de raconter une histoire et de clarifier l'histoire. Donc il y avait à la fois un effet de rutilement, de scintillement, mais aussi d'explicitation d'une histoire.
On vous sent, Stéphane Barsac, justement entre deux pôles. Il y a d'une part le pôle Frison Roche, voilà, qui utilise lui aussi les aplats d'or, extrêmement décoratifs, pas au mauvais sens du terme, mais voilà, ce sont des images qu'on peut admirer longtemps, on peut admirer la manière du peintre, sa virtuosité, essayer de comprendre pourquoi diable cette chouette est posée sur cette tête, ou ce poisson est en train de voler dans les airs à côté d'oiseaux. Et au contraire, de l'autre côté, c'est Stanislas Bouvier, ces paysages extrêmement calmes, ces crépuscules noyés dans les nuages ou les brumes, ces mares tranquilles où on sent une ville attente sous les mousses. Et là, au contraire, avec des tons très assourdis, gris, bleu, marron. Donc, vous ne refusez ni la rutilance des cathédrales, ni le relatif dépouillement du Rembrandt de la fin. Mais par contre, je n'ai pas vu d'auteur réellement minimaliste dans votre... dans votre ouvrage. Vraiment, le côté, tiens, je pose une plaque par terre où non, je fais entendre une note de musique pendant 32 secondes.
C'est pas trop mon genre, effectivement. Simplement parce qu'il y a un manque d'art. C'est bien d'arriver à un dépouillement par une maîtrise de l'art, mais enfin, s'il n'y en a aucune, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Alors, pour autant, comme disait Sainte Thérèse, alors décidément, on l'aura cité ce soir, je choisis tout. C'est-à-dire que si ça a du sens, si ça porte à la méditation, si ça m'ouvre des voies inattendues, que ce soit Frison Roche, que ce soit Stanislas Bouvier, que ce soit un tel ou un tel, je suis tout à fait prêt à être émerveillé. Et d'une certaine manière, c'est ce que propose l'art, cette expérience où on ne s'attendait pas à être émerveillé à un tel point.
Mais y compris par les choses les plus simples. Chez Rembrandt, le mouvement naît du dedans, d'un silence de l'âme que le baroque ignore. Les figures baroques ont quelque chose de léger, elles jouent à être vivantes, mais il leur manque cette pesanteur intérieure, cette densité intime qui seule permet de susciter la joie. Ce que vous appelez l'intensification tout à l'heure. Et on a l'impression, voilà, bien sûr, les ailes d'un ange multicolore dessiné par Frangelico, mais aussi, en fait, les mares de Stanislas Bouvier. On a vu une exposition ensemble, voilà, avec des paysages, voilà, de français. une fois de plus, noyé de brume, avec un ciel nuageux. Et là, on sentait cette vie précisément parce qu'il n'y avait rien de spectaculaire, d'une certaine manière.
Oui, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Mais si vous permettez, j'aimerais raconter une petite anecdote au sujet de Pauline de Préval et de son livre, le Dictionnaire amoureux des cathédrales, puisqu'on parlait d'intensification, de voltage, de signes aussi. Voilà, comment l'art rentre dans nos vies. Il se trouve que Pauline de Préval, puisqu'on en avait parlé à l'époque, avait comme projet de faire ce livre qu'elle a signé donc avec les éditions Plomb, exactement... une semaine avant que la cathédrale Notre-Dame prenne feu. Donc, quand on a vu ça, Pauline de Préval et moi, on a été saisis parce que tout à coup, quelque chose se passait. Cet événement a été considérable. On ne peut pas mésestimer ce qu'il a signifié, tant sur le plan symbolique que politique. Du moment où cet incendie a eu lieu, Pauline de Préval a commencé à écrire son livre et son objectif a été de le terminer pour la réouverture de la cathédrale. Donc elle a vécu, alors elle en parlerait sans doute mieux que moi, mais cet exercice de l'écriture au rythme de la
reconstruction.
De la reconstruction même de Notre-Dame de Paris.
Pauline de Préval, vous aviez le sentiment, si j'ose dire, de construire une cathédrale parallèle.
Une cathédrale de papier, très modestement. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression, oui, de... J'ai été très portée par l'atmosphère de la reconstruction de la cathédrale. Et je me suis dit que je devais y contribuer de ma manière, en les donnant à mieux aimer et mieux comprendre. Et j'ai essayé de le faire tout simplement en me mettant à l'école des architectes gothiques eux-mêmes, qui savaient très bien qu'ils étaient que les maillons d'une chaîne, qu'ils ne verraient pas leur œuvre achevée. C'est-à-dire que j'ai donné un certain nombre de points de vue, mais qu'il reviendrait à d'autres d'achever l'œuvre. Je n'ai pas prétendu, avec ce dictionnaire amoureux des cathédrales, de faire un livre, une œuvre d'art totale, de dire le dernier mot sur tout, mais de donner une vision aussi incarnée et sentie, parce que des livres sur les cathédrales, il y en a beaucoup, de très bons. Il y a des historiens qui ont écrit sur les cathédrales, des historiens de l'art. Il y a des écrivains que je cite abondamment aussi, mais j'ai trouvé que souvent les écrivains pouvaient être enthousiastes ou enthousiasmants, mais pas toujours juste sur le plan factuel. Et moi, j'ai essayé de réunir tout ça et d'apporter surtout un point de vue personnel, incarné, vécu, sur certaines œuvres, certaines cathédrales que j'avais pu croiser et que je considère un peu comme des personnes à travers lesquelles je peux voir toutes les générations passées, rencontrer Dieu. J'ai essayé de communiquer cet amour en fait, des cathédrales en partant du constat que les Français étaient très attachés, comme on l'a vu, à leur cathédrale, mais ils ne savaient pas forcément pourquoi. Donc j'ai essayé d'expliciter un peu cela, et notamment à travers l'architecture gothique, les cathédrales gothiques, qui étaient elles-mêmes une volonté d'explicitation des mystères de la foi. Donc cet art-là m'avait touchée, je pense qu'il y a quelque chose d'encore vivant, j'ai voulu transmettre cette vie à travers ce livre, et j'ai vraiment eu l'impression en effet de mettre pierre après pierre en même temps que je voyais les artisans déblayer le chantier, nettoyer les murs, reconstruire un chapiteau, reconstruire une voûte, ça a été quelque chose de très intense.
Bon, et je témoigne du fait que ce dictionnaire amoureux des cathédrales, on rentre de plein pied à travers le truchement de toutes ces entrées par ordre alphabétique. Évidemment, il faut le lire vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire sauter d'une notice qui décrit telle sculpture à telle personne. Vous citiez un liturgiste tout à l'heure, donc, qui, si je ne m'abuse, ça fait partie des entrées qu'il y a dans le...
je cite abondamment.
Voilà. Puisqu'on parle de cathédrale blessée, et dans les 3 minutes qui nous restent, vous nous dites, Stéphane Barsac, la modernité se tient entre reconnaissance de la beauté, aimée pour le monde qu'elle peut être, avec le rêve d'une harmonie et le refus de cette beauté pour une attestation de la douleur. Et on a l'impression que notre époque, dans la manière qu'elle a de privilégier une certaine vulgarité, ou un art sans art, ou en tout cas, enfin voilà, le vagin de la reine, on peut effectivement considérer que ce n'est pas absolument admirable, a l'air de refuser en fait ce pari que vous faites d'un art qui nous ouvre sur autre chose, comme si les gens avaient peur en fait d'aller plus loin.
Oui, sans doute a-t-on peur en poussant la porte de découvrir qui nous sommes. Or justement, c'est toute l'aventure humaine. qui nous sommes. Nous sommes effectivement des êtres avec tout ce qu'on peut imaginer de composite, de complexe, de contradictoire aussi. Mais à travers ce chemin, il y a aussi la possibilité d'accéder à une lumière, fût-ce à travers l'expression d'une douleur, mais une douleur surmontée, par exemple. Là où le grand art chrétien a été si fondamental, c'est qu'il a réussi à joindre ces deux dimensions. L'expression de la beauté, comme témoignage rendu à Dieu, et en même temps, dans l'expression de la beauté, le fait qu'on ne refuse pas ce qu'a été la douleur de la croix, la compassion pour ceux qui souffrent, et en quoi cette compassion nous amène à une compréhension plus profonde de nous-mêmes aussi.
Alors, c'est évident, cette douleur de la croix, ce sont ces crucifix espagnols avec ces visages grimaçants. Vous en parlez aussi dans votre livre du moment où, en fait, l'expression un peu outrée, la douleur, a fini par lasser. On est rentré dans une nouvelle spiritualité avec un nouveau type de tableau où brusquement, c'est la Vierge à l'enfant. Ce sont des scènes plus calmes, ce sont des scènes plus intimistes et qui, d'ailleurs, on quitte les grandes cathédrales pour rentrer dans les cabinets et dans les chambres et donc dans les petits hôtels de dévotion où on peut se confronter soi-même, non pas au spectacle social de cette beauté, mais vraiment d'une manière plus intime, ce face-à-face dont vous parliez tout à l'heure.
On a cette dimension, mais on a aussi en amont toute la grande tradition byzantine, par exemple, avec le Christ Pantocrator. C'est le Christ qui, même sur la croix, en fait, triomphe de la mort et qui vient nous dire que la douleur est appelée à passer. Donc ça, c'est une expérience que l'art propose, qui est proprement inconcevable, qui est l'expression d'une révélation. Et si on regarde attentivement ce que cet art nous dit, on ne peut en être que transformé soi-même.
Et on terminera sur ces paroles et surtout sur celles que vous êtes allé chercher chez William Blake. Si on nettoyait les portes de la perception, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. Car l'homme s'est refermé sur lui-même jusqu'à considérer toute chose par les brèches étroites de sa caverne. Eh bien, chers amis, de l'univers visible et invisible, éloge de l'art et le dictionnaire amoureux des cathédrales vous permettent de ne pas vous renfermer sur vous-même et d'avoir une vision bien plus large. Merci et à très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du lundi soir dirigé par Richard de Sèze. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 4 mai 2026, de 19h30 à 21h, et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.